Au sens propre, la source eau risque de se tarir et à la vitesse grand V, qui une eau ben, qui très souvent a besoin d'être traitée, c'est-à-dire dépolluée, remise en état avant d'être retournée à la nature. On s'en sert dans nos tâches quotidiennes également, et c'est une des raisons pour laquelle on en parle à Kyoto actuellement. Et pour nous en parler davantage, on a Rosane Potin pour sa chronique d'actualité internationale. Bonjour Rosane.
Bonjour Denis.
Comment ça va ce matin?
Très bien, et toi?
T'as l'air en pleine forme.
Oui, ça va avec le soleil. Là.
Ah, c'est agréable, hein? Rosane, troisième forum mondial de l'eau. Ça se déroule à Kyoto cette année. Ça s'est déroulé auparavant à La Haye en l'an 2000, Marrakech en 97. Ça, c'était le premier à ce moment-là. C'est quoi les enjeux, là, cette année?
Les enjeux, c'est de mettre en avant, après un rapport de l'ONU qui a été publié début mars, le fait qu'on s'en va vers une crise imminente de l'eau, vu que les ressources vont se tarir, effectivement, comme tu le disais. Donc, le sommet mondial de l'eau, là, il a lieu toute la semaine à Kyoto, jusque lundi prochain. C'est la plus grande conférence qui a jamais été consacrée à l'eau. Elle doit accueillir 10 000 délégués de 160 pays. Elle est organisée par le Conseil mondial de l'eau, qui regroupe en fait plusieurs agences de l'ONU. Là, va y avoir des gouvernements qui vont être présents, des institutions financières publiques et privées, des firmes multinationales de l'eau. Donc, l'eau est un problème important cette année. Ça a été le thème annuel des Nations Unies. Mm-hmm. Là, il y a 40 thèmes qui vont être abordés.
40 thèmes,
ouais.
Oh là là.
350 sessions, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc les thèmes les plus importants, c'est l'eau et la pauvreté, par exemple, les changements climatiques, l'eau comme facteur de conflit, ou les nouvelles technologies d'irrigation et de financement des infrastructures de l'eau. Donc effectivement, c'est en fait, il y a un rapport de l'ONU qui a été publié début mars. C'est la première fois qu'il y avait un bilan planétaire des réserves d'eau, et celui-ci est vraiment catastrophique. On parle de crise imminente de l'eau, puisque d'ici 20 ans, on est censé perdre 30% des réserves d'eau.
D'ici 20 ans?
Un tiers, voilà, c'est ça.
On parle des réserves mondiales d'eau.
C'est ça, tout à fait.
C'est énorme.
Donc, il y a déjà des problèmes quand même, puisque 1,4 milliard de personnes n'ont pas d'eau potable en quantité suffisante. Il y a aussi un autre problème dont on parle moins souvent, c'est le fait que 2,8 milliards de personnes n'ont pas accès à des systèmes d'assainissement d'eau. Or, en fait, comme il y a une espèce de tabou autour des excréments, on a du mal à trouver des solutions pour ces problèmes sanitaires. Sauf que là, on parle de près de la moitié des gens qui n'ont pas de système sanitaire, sauf que ça, c'est une grosse source de pollution. Et il y a 7 millions de personnes qui meurent chaque année uniquement à cause de problèmes de santé, justement...
Dû à ce manque d'assainissement d'infrastructures,
voilà.
Et tout, là. 7 millions par année.
Voilà, lié à à une eau qui est malsaine. Donc, en fait, on donne trois facteurs qui vont expliquer donc cette baisse de 30% d'eau. Tout d'abord, la croissance démographique, la pollution et le réchauffement climatique. Donc la croissance, parce que il va y avoir une demande additionnelle, et donc en fonction des prévisions, on prévoit que dans 50 ans, entre 2 milliards de personnes pour les personnes optimistes et 7 milliards pour les prévisions pessimistes d'humains n'auront plus d'eau ou seront touchés par les pénuries. La pollution, en fait, vu que l'eau dont on a besoin souvent, elle est proche des villes, sauf que proche des villes, l'eau est beaucoup utilisée, donc là, elle est très polluée, ce qui demande des coûts additionnels pour traiter cette eau. Or, justement, dans les pays en voie de développement, c'est assez dur de traiter cette eau. Et donc, déjà, aujourd'hui, 50% de la population des pays en voie de développement est exposée à des sources polluées. Donc, à l'avenir, ça va être encore pire. Et donc, le réchauffement climatique, ça, c'est la cause la plus importante, devrait concerner 20% des 30% des réserves d'eau qui vont baisser.
Oui.
Donc, cette baisse de quantité va faire que l'eau qui va rester, qui va être en moins forte quantité, donc, va être de moins bonne qualité également. Par exemple, on prévoit que le Saint-Laurent va baisser d'un mètre d'ici 20 ou 30 ans à peu près, à cause de la pollution, entre autres.
Un mètre,
tout de même. Donc, on établit un palmarès des ressources d'eau en fonction de la qualité qui les rend utilisables à bon coût. Et donc, on dit que ce palmarès, finalement, c'est comme une future carte géopolitique des conflits. Le Canada est en très bonne position, c'est le deuxième pays dans ce palmarès. La Finlande est le pays où il y a l'eau de meilleure qualité. Les 10 premiers pays, c'est essentiellement des pays riches et industrialisés, puisqu'en fait, ce qui est cher, c'est de traiter l'eau.
Ce sont les moyens financiers aussi.
Voilà, pour récupérer l'eau polluée, puisque même si on a de l'eau de bonne qualité au début, assez vite, elle se retrouve polluée. Les problèmes, c'est en Chine, donc, c'est un bassin inquiétant, puisqu'aujourd'hui, il se retrouve au 84e rang sur 124 à peu près selon le classement là. Sauf que la demande d'eau devrait augmenter de 60% d'ici 2010.
Pour la Chine.
Pour la Chine. Il y a le bassin du Nil aussi qui est très inquiétant puisque le Nil est partagé par 10 pays qui ont une très forte croissance démographique.
De là, où on va vouloir s'arracher les ressources là.
Tout à fait. Surtout que elle va être de plus en plus polluée, donc pour la traiter, ça va être de plus en plus dur.
Possible conflit important en perspective dans les prochaines années là-dessus.
C'est ça. Et les États-Unis aussi, c'était intéressant parce qu'en fin de compte, ils utilisent beaucoup plus d'eau que leur nappe phréatique ne peut en.
Effectivement, oui.
Beaucoup de pression
sur la ressource, oui. L'agriculture, les terrains de golf, on pourrait dire aussi.
Oui, mais surtout l'agriculture. Oui. Donc voilà, alors on voit qu'il y a une montée en puissance diplomatique de la question de l'eau, puisqu'en fait on s'est rendu compte tout de même que c'était une condition essentielle de sortie de la pauvreté. Donc on essaye de favoriser les programmes d'accès à l'eau dans les problèmes d'aide au développement. Effectivement, ça améliore en général la santé de la population, ça allège la tâche des femmes, ce qui permet aussi la scolarisation des filles. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas un problème qui est géré de manière cohérente, puisque comme je vous le disais, c'est le Conseil mondial de l'eau là qu'organise la conférence. Sauf que ce Conseil mondial de l'eau, il regroupe 23 agences de l'ONU.
Il y a des agences privées à l'intérieur du Conseil mondial, hein. Il y a des critiques là de plus en plus qu'on entend là-dessus. Là.
C'est ça. Et l'agence présidence de cette année, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et le président du Conseil mondial de l'eau, donc c'est pour ça qu'il y a un forum alternatif qui aura lieu cette fin de semaine à Florence.
Ah, il y a un forum alternatif, je ne savais
voilà,
pas.
Voilà. Mais
est-ce que c'est au même endroit, Kyoto aussi?
Non, c'est à Florence, en Italie.
En Italie, le forum alternatif de l'eau.
C'est ça.
Pour faire contrepoids à ce grand forum mondial qui est actuellement au Japon.
Parce qu'il critique justement le mode de financement et la manière dont sont présentées les choses, puisque donc le président du Conseil mondial de l'eau est également président de la Société des eaux de Marseille, qui est une filiale du groupe Vivendi.
Oui, donc multinationale de l'eau.
C'est ça. Donc le gros enjeu, c'est que ces firmes multinationales qui sont présentes là lors du sommet de Kyoto veulent récupérer les futurs marchés de l'eau, entre autres dans les pays en voie de développement. Et donc c'est ce que critiquent les gens qui organisent ce forum alternatif. Pour eux, ça doit être un problème qui relève de la responsabilité politique. C'est un droit fondamental. Tout le monde devrait avoir accès à l'eau et donc ça ne devrait pas être l'objet de marchandage privé. Eux, ils font des propositions parce que aujourd'hui, on prévoit que pour améliorer l'accès à l'eau, ça devrait coûter 100 milliards de dollars. Or, eux disent que le coût devrait être de 10 à 20 milliards. Leur proposition, c'est déjà, eux, ils veulent qu'on fasse respecter toutes les promesses d'aide concernant l'eau qui sont fixées à 0,7% du PIB à l'échelle internationale. Ils veulent qu'on taxe les eaux minérales qui coûtent 100 à 300 fois plus cher que les eaux du robinet et qui, en fait, profitent aux grands groupes comme Danone ou Nestlé. Ils veulent qu'on fasse une taxation sur les spéculations financières. Ça, c'est l'objet d'attaque, les taxes Tobin.
Oui.
Donc, on récupérait l'argent pour l'eau. Et ils veulent qu'on fasse un impôt mondial où on taxerait plus le nord que le sud pour avoir accès à ces réserves d'eau. Ils ont aussi deux propositions intéressantes, qu'on crée un tribunal mondial de l'eau.
Ah oui?
Et ils exigent que chaque personne ait accès à un minimum vital de 40 litres d'eau par habitant.
Mmh. C'est pas le cas, là, surtout dans certains pays africains. Là. On est obligé de marcher des kilomètres pour aller chercher des chaudières d'eau, c'est absolument hallucinant.
C'est ça, où finalement l'eau occupe la majeure partie de la journée parce qu'on ne peut pas vivre sans.
Donc, en terminant sur ce sujet, Rosane, le Forum mondial de l'eau se termine ce week-end aussi?
C'est ça.
Et c'est là qu'il va avoir lieu le début du Forum alternatif à Florence, en Italie.
En fait, en même temps, puisque ce week-end, c'est les ministres qui se retrouvent à Kyoto pour élaborer une déclaration de principe, puisque c'est toujours une déclaration de principe. Et en même temps, il y aura le forum alternatif.
En terminant, Rosane, un petit mot sur le coup d'État en Centrafrique.
Voilà, donc je vous parlais de la Centrafrique il y a un mois à peu près, je crois, maintenant. Donc l'ancien chef d'État-major du président Patassé, donc François Bozizé, s'est finalement emparé du pouvoir après plusieurs mois d'occupation. Le président s'est réfugié au Cameroun. Donc on a eu un week-end assez sanglant quand même, 13 personnes qui ont été tuées.
Le week-end dernier.
Voilà, le week-end dernier, plusieurs dizaines de personnes blessées. Il y a eu des pillages dans toute la capitale, il paraît que c'est à feu et à sang. Un couvre-feu a été imposé, puis le nouveau président, puisqu'il s'est autoproclamé président, M. Bozizé, a supprimé la constitution, dissout l'Assemblée nationale, pardon, limogé le gouvernement. Sauf que ça a été le coup d'État a été condamné par la Fédération internationale des droits de l'homme et d'autres institutions.
Bon, c'est à suivre. Donc ça s'est déroulé la semaine dernière en République centrafricaine. Bien, merci Rosane Potin pour cette chronique très intéressante.
Merci Denis, bonne
semaine.
Bonne journée
et puis on se voit la semaine prochaine.
Ça marche.
Merci
Rosane.